On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
Le saviez-vous ? Dans les années 90, une nouvelle plante aquatique est apparue sur certaines voies d'eau dans la zone humide du Marais Poitevin. La Jussie. Cette plante est devenue depuis 30 ans beaucoup trop présente. Le domaine public fluvial représente 183 km de voies d'eau, dont 106 de voies navigables. Pour limiter l'expansion des Jussies, et parce que l'IBSN a pour mission, entre autres, d'assurer l'entretien des voies navigables et des ouvrages, cette institution interdépartementale du bassin de la Sèvre, Niortaise, mène depuis 1994 un plan de gestion sur la zone humide du Marais Poitevin, marais mouillé de la Sèvre Niortaise, des Autizes et du Mignon. Pour mener à bien cette opération, 10 saisonniers sont employés de mai à octobre pour intervenir sur toute la zone des marais mouillés du Marais Poitevin. Et les différents réseaux hydrauliques sont concernés par l'opération. L'arrachage de la Jussie se fait à la main. Oui, encore, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Une activité très physique, mais nécessaire. Une journée ensoleillée de juin, j'en profite pour me rendre à Maillé et me rendre compte par moi-même de ce travail humain. Puis, avec une sortie en bateau, pour constater les voies d'eau où la Jussie a été arrachée ou non. En compagnie de Nicolas Pipé, référent Jussie depuis 30 ans à l'IBSN, Madame Séverine Vachon, présidente de l'IBSN, Alain Dutartre, expert national indépendant spécialiste des espèces exotiques envahissantes. Pourquoi ne pas laisser vivre à la Jussie sa vie de plante ? N'existe-t-il pas d'autre manière de retirer cette envahissante de notre marais ? Écoutez et comprenez à travers ce reportage sur le terrain.
Bonjour.
Bonjour. Laurent Massès, qui est responsable
chef de service,
chef de service entretien du DPF à l'IBSN.
Chauffeur grutier.
C'est bien parce que le port est...
Voilà une partie de l'équipe Jussie, effectivement. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de vous présenter pendant une petite heure là, deux, trois activités liées au chantier Jussie. Donc il y aura une opération de déchargement de barques et de chalands, voir un petit peu comment on le fait, comment on mécanise ça. On fera une petite visite du bateau aussi, hein, de l'arche là. Et ensuite, je vous emmènerai avec une barque, on va aller faire un petit tour là, 5 minutes là, dans le marais par bateau, pour aller voir deux sites sur lesquels on n'intervient pas, pour vous montrer un petit peu si on fait rien, bah, à quel point la colonisation elle est importante, la prolifération est forte. On oublie beaucoup aujourd'hui effectivement qu'il y a encore des gros herbiers et qu'il pourrait y avoir cette situation. Moi qui travaille depuis 30 ans effectivement au sein de l'institution, j'ai connu ça il y a 25 ans, et quand on a connu ça, on se dit qu'il ne faut pas revenir en arrière. Donc, voilà pourquoi c'est une opération effectivement qui est importante, qui perdure. Donc c'est important de vous montrer ça. Madame la Présidente, si vous voulez introduire un petit peu différemment,
Non, si on l'a un peu dit dans le,
voilà, poser des questions,
dans le bateau, déjà saluer la présence de Monsieur Guitard.
Qui pourra répondre à vos questions de manière plus technique aussi ?
Qui essaiera
mais qui y arrivera. Non, ce que je disais, c'était plutôt histoire de faire un focus un petit peu sur les actions d'une espèce invasive envahissante et qui nécessite une intervention annuelle pour permettre effectivement d'assurer à la fois la qualité de l'eau, enfin, l'évacuation des eaux, le tourisme, qu'il soit fluvial ou autre, et puis toute la partie navigation, pêche. Donc si on ne faisait pas ça, aujourd'hui on serait dans une situation problématique qu'on a vécue il y a déjà quelques décennies en arrière. Le IBSN intervient maintenant depuis presque 30 ans sur cette question-là. Et c'est vrai que l'action qui est menée permet de contenir, j'allais dire, la prolifération des Jussies et nous permet, grâce à un investissement, j'allais dire, chaque année, hein, on est à 5 millions d'euros environ depuis 30 ans maintenant sur cette opération, de pouvoir assurer, j'allais dire, un marais Poitevin agréable pour tous et pour tous les usages du territoire.
Là, si vous voulez juste jeter un œil, là, on va regarder avant Florent en vide là-bas, comment ça se passe concrètement en termes d'organisation et de logistique. On fera un tour dans un bateau comme ça vide tout à l'heure. Hein. Là, l'objectif, c'est que techniquement, deux agents, hein, c'est qu'il y a deux personnes dans chaque bateau, prend un bateau comme ça, longe le long des berges, ramasse la Jussie à la main. L'idée, c'est effectivement de faire le choix de ramasser que la Jussie et d'essayer d'autres plantes de développer. d'aller récupérer les racines. On stocke provisoirement durant une journée ou deux dans le bateau. Et puis quand il y a de la justice dans le bateau, suffisamment, on a un camion grue qui évacue ou on a une barge avec une grue aussi qui permet de vider et de mécaniser cette opération qui est la plus fatigante, on va dire. Donc vider, voilà. Les bateaux sont pleins, on vide, on nettoie le bateau. Vous verrez, ils vont passer ensuite l'eau dans des épuisettes pour ramasser les petites boutures. Parce que le mode de production principal de cette plante-là, c'est le bouturage. Et quand il y a des petites quantités, on stocke comme dans une barge un peu plus grande, hein, le bateau qui est après, le chaland là. On stocke tous les jours, on nettoie le bateau, on le met dedans. Et puis quand le chaland est plein, c'est pareil, le camion vient le vider. Et pourquoi il y a une bâche de protection à votre avis sous nos pieds? C'est tout simplement que la nature tombe entre la barque et la berge, retombe dans l'eau, et l'année suivante recolonise le milieu. Donc c'est un tas de petites recommandations d'intentions qu'on porte effectivement sur la plante. C'est ça, c'est le ramassage des boutures avec des épuisettes. Tout ce qu'on fait en minutie en ramassage de boutures est important. Voilà, donc on va laisser faire les spécialistes du déchargement.
C'est 100 tonnes chaque année qui sont ramassées, donc c'est relativement conséquent.
100 tonnes sur quel territoire?
Sur le marais Poitevin, ça fait à peu près 1500 km de berge.
Sur l'ensemble du marais Poitevin, 100 tonnes
oui.
par an?
Sur la partie marais mouillé. Marais mouillé, hein, uniquement.
Vous occupez de la Jussie jusqu'où?
Le marais mouillé, au sein du marais Poitevin, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'axe Sèvres, les Autises, le Mignon et puis une partie des réseaux secondaires et tertiaires lorsqu'ils nous sont délégués par les syndicats mixtes et puis les syndicats de marais.
Ça, c'est votre mission principale?
Alors, c'est une mission parmi d'autres parce que la principale est de gérer le domaine public fluvial. C'est l'axe Sèvres qui permet effectivement la partie touristique, les bateaux, la pêche, l'évacuation des eaux. Et la gestion des niveaux. Donc on va dire que c'est une des missions, mais qui est quand même importante parce qu'elle permet toutes les autres.
On peut en citer d'autres de vos missions, justement?
La gestion des niveaux d'eau, la gestion du domaine public fluvial avec l'entretien des berges, la réalisation aussi, l'entretien des ouvrages hydrauliques, puisqu'il faut assurer la gestion jusqu'à Maran, qui est l'exutoire de la Sèvre. Et puis tout ce qui va concerner aussi... les cabinets d'études pour la gestion des ouvrages. On va retrouver aussi tout ce qui va être études avec l'animation, ce qu'on appelle les SAGE, les schémas d'aménagement des eaux. Et puis tout ce qui est animation territoriale sur la partie milieu et contrat territorial eau.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que ces personnes font devant nous?
Alors c'est de l'arrachage manuel de Jussie, donc des plantes invasives. Espèce invasive envahissante, j'allais dire. Donc là, on a 10 personnes qui interviennent 6 mois l'année, uniquement sur cette mission, pour justement arracher manuellement ces jussies et pour permettre la praticabilité de la Sèvre. Donc si on ne faisait pas ça, la pêche serait compliquée, l'évacuation des eaux serait compliquée, la navigabilité également. Donc cette opération permet de pouvoir assurer tous ces usages sur la Sèvre.
Comment ils vont chercher justement dans l'eau la Jussie?
Ben oui, il faut arracher manuellement. Donc on ne peut pas traiter, on a expérimenté pendant les 30 ans passés plein de possibilités. Autrefois, il était possible aussi de traiter, ce qui n'est pas possible aussi par rapport à la qualité de l'eau. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que d'arracher manuellement et mécaniquement aussi par certaines opérations ces espèces invasives.
D'où vient-elle cette espèce invasive?
Alors, il semblerait qu'au départ, elle vienne des États-Unis, qu'elle ait été importée. Après, savoir comment elle s'est développée, c'est un peu plus compliqué. Elle était un petit peu sur la partie Sèvres, côté Deux-Sèvres et Charente-Maritime. Aujourd'hui, elle est partout. Et à l'échelle nationale et internationale, c'est une espèce qu'on retrouve là aussi partout et pour lesquelles les opérateurs peuvent avoir plusieurs stratégies. Certains considèrent que c'est compliqué de l'éviter et qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir les enlever. Nous, on fait un choix différent, fort de nos partenariats avec les collectivités et nos financeurs, pour assurer justement une pérennité et puis permettre que la Sèvre soit toujours praticable.
La lentille a disparu, la Jussie est arrivée. Est-ce qu'il y a une rencontre qui s'est faite?
Alors, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Les spécialistes pourront en parler peut-être plus que moi, qui ne le suis pas. Mais non, je pense qu'effectivement, cette espèce a été importée. Elle profitait aussi d'une prolifération très forte. On voit aussi qu'elle a un impact sur les espèces endogènes aussi. Donc, il faut qu'on soit vigilant pour justement qu'elle ne vienne pas empêcher la vie aussi des autres espèces sur l'axe Sèvres. Mais après, non, il n'y a pas forcément un lien entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, il faut la contenir.
Ne serait-ce que pour la vie sous-marine, ici ?
Eh oui, on en a besoin. Je pense qu'on a aussi plein de travaux qui ont été réalisés. C'est aussi une des missions de l'IBSN, la réalisation de passes à poissons sur les ouvrages hydrauliques. Si on fait des ouvrages, mais qu'en même temps, on n'assure pas, j'allais dire, la praticabilité aussi pour que les poissons puissent se développer, finalement, nos investissements auront été perdus.
Gros travail, 6 mois dans l'année, chaque année.
6 mois dans l'année, donc ce sont des contractuels qui interviennent sous la houlette de Nicolas Pipé, qui est notre responsable, et qui viennent en appui. C'est un métier très physique, très dur, dans des conditions parfois un peu extrêmes. Hein. On est sur des bateaux, en pleine chaleur parfois l'été, parfois il pleut. Donc c'est très physique, mais c'est nécessaire.
Et sur quelle période ça se fait ou ça doit se faire ?
Ben là, on est dans la bonne période. Hein. On voit bien que sur la période estivale, la prolifération liée au climat, au réchauffement climatique, va dans le sens d'une prolifération de ces espèces invasives. Donc c'est le moment où il faut agir. Et on essaie de passer 2 fois par an sur l'ensemble du linéaire. Et là où on ne peut passer qu'une fois, on voit déjà la différence.
Est-ce que pour vous, cette espèce invasive est la plus dangereuse sur notre Sèvres ?
Alors non, parce qu'il y en a plein d'autres. Alors après, ce n'est pas forcément des blancs, mais on pourrait parler aussi des espèces autres, animales, je dirais, aussi qu'on retrouve sur le marais. Donc il y en a plein, finalement, qui sont extrêmement préoccupantes, mais il faut pouvoir s'y atteler pour permettre que la marée Poitevin reste encore cette deuxième zone humide de France, agréable à vivre, où tous les usages peuvent se concilier.
Les tâches sont multiples. Merci.
Merci.
Alors bonjour, je suis en compagnie de...
Alain Dutartre.
Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Dutartre ?
Je suis un retraité heureux qui vient participer à une activité auquel j'ai contribué depuis très longtemps.
C'est-à-dire ?
Depuis 1994.
Vous pouvez nous décrire cette activité ?
Donner des informations sur les jussies à mon interlocuteur habituel dans le Marais Poitevin, dans l'institution, Nicolas Pipé, qui est donc chargé de tout le travail mené sur les jussies depuis 1994. Et j'ai pu l'aider parce que, de mon côté, j'étudiais cette plante parmi d'autres à l'occasion de mon travail, là où j'étais, c'est-à-dire dans un établissement de recherche public qui s'appelait à l'époque le CTGREF. Ça remonte donc au début des années 90.
Le CTGREF, c'était basé où ?
L'unité où je travaillais était dans la banlieue de Bordeaux. Et j'y suis resté toute ma vie professionnelle.
La jussie, est-ce qu'elle est bien présente dans le marais Poitevin, d'après vous ?
Elle est toujours bien présente. C'est pour ça qu'on est obligé de s'y intéresser de près pour la retirer, pour l'empêcher qu'elle gêne les activités humaines, et qu'elle ne crée pas de dommages, par exemple, aux implantations humaines, parce qu'il pourrait y avoir des inondations si on la laissait proliférer et empêcher les écoulements, par exemple. Parmi les conséquences, il y a aussi le fait que quand elle occupe un site de façon extrêmement importante, il n'y a plus beaucoup d'autres plantes aquatiques qui peuvent subsister, donc c'est une atteinte assez forte à la biodiversité. Puis ça modifie aussi le fonctionnement de la faune, hein, de la faune d'invertébrés, des poissons, etc. Donc on a des impacts qui sont aussi des impacts écologiques qui peuvent être extrêmement importants.
À part cette méthode physique d'arracher la jussie, y a-t-il d'autres solutions ? Est-ce qu'elle a des prédateurs, la jussie ?
Alors, il y a d'autres solutions qui sont employées ailleurs dans le monde, là où c'est permis, les herbicides. Et quand c'était encore autorisé en métropole, j'ai contribué à faire des tests d'herbicides pour voir l'efficacité que ça avait sur ces plantes. Je peux vous dire que, par exemple, dans un certain nombre de pays anglo-saxons, dont les États-Unis et ailleurs, ils continuent à travailler avec des herbicides qui sont, par exemple, le Roundup, qui est connu maintenant, qui est très bien connu, et dont on connaît aussi les impacts, de façon régulière. Donc, le choix qui a été fait, la réglementation concernant les herbicides qui sont maintenant interdits directement en milieu aquatique, a limité quand même la contamination qu'on pouvait avoir par des interventions antérieures. Quoi. Et donc, de ce point de vue-là, ça, bien sûr, ça nous enlève un moyen, Mais est-ce que la contamination en vaut la peine? Et je sais que les Américains, il y a des chercheurs américains depuis quelques années qui commencent vraiment à se poser la question. Est-ce que c'est toujours aussi... Est-ce que l'enjeu en vaut la peine de continuer à contaminer les eaux qui sont utilisées par le bétail, par les humains, avec des produits qu'on pourrait peut-être ne pas avoir à utiliser? Donc c'est une vraie question. Et il n'y a pas de miracle, c'est ça le... Il n'y a pas de solution miracle. Moi qui ai donc étudié avec beaucoup d'intérêt ces espèces depuis des années, je peux vous dire que si j'avais trouvé une solution miracle, je me serais dépêché de la vendre et je serais immensément riche, évidemment.
Ce n'est pas le cas, a priori.
Ce n'est pas le cas, non. Et, en fait, les recherches qui sont menées actuellement, par exemple, portent sur l'identification d'animaux comme des insectes qui seraient des consommateurs spécifiques des plantes.
Voilà, on a fait une petite pause pour entrer sur ce bateau. J'ai une question primordiale. Depuis quand la Jussie est apparue dans le Marais Poitevin?
Dans le Marais Poitevin, les premières observations doivent dater de 1991. Et donc l'institution a commencé à avoir des soucis, je suppose. Hein. Et moi j'ai été contacté là où je travaillais au CTGREF, fin 1993, donc 2 années après les premières observations, parce que la plante commençait à montrer, je pense, une extension assez importante des herbiers qui étaient bien visibles. Quand ils sont en fleurs, on les voit parfaitement. Et puis donc le travail effectif a vraiment commencé à partir de 1994.
Avant, elle n'existait pas nulle part.
En France, si, elle était présente depuis 1820-1825. Elle a été observée à cette époque-là dans la région de Montpellier. Alors, Montpellier, c'était un port largement utilisé. Et puis, les premières observations dans les Landes datent de 1895 aux environs de Bayonne. Vous voyez, là encore, à proximité d'un port. Donc, on peut penser que peut-être les plantes ont été apportées par accident par du transport maritime, quoi. Puis après... Jusqu'au milieu du XXe siècle, elles ont dû se balader un peu partout, sans qu'on y prête vraiment attention. Mais comme on a commencé à s'intéresser de plus près aux plantes ornementales, hein, avec le développement de notre société, les bassins extérieurs, etc., elles ont été appréciées pour leurs belles fleurs. Et donc maintenant, elles ont été aussi beaucoup dispersées. Avant qu'on commence à avoir des soucis un peu partout, elles sont interdites maintenant complètement de manipulation, et donc de vente, etc., depuis 2007. C'est l'évolution du fonctionnement de notre société. Hein. Les introductions d'espèces ont été développées à partir des grands voyages autour du globe, des voyages depuis de Colomb, Magellan et les autres. Et en fait, il y avait un certain plaisir à ramener des plantes et des animaux que personne n'avait vus ici. Quoi.
L'exotisme.
Ah ben l'exotisme. Vous savez bien que la Société nationale de protection de la nature actuelle, au 19e siècle, s'appelait la Société nationale d'acclimatation. Donc vous voyez, l'objectif, c'était pas protéger la nature, c'était en apprécier toutes les beautés, donc aller chercher des beautés ailleurs. Là, on a changé de regard maintenant. Vu les contraintes que nous causent certaines espèces exotiques qui se retrouvent... dans de nouvelles contrées sans prédateurs, sans maladies, sans concurrence, elles se développent plus vite que les autres.
Le seul prédateur de la Jussie, c'est nous?
Non, parce que elle est consommée par un certain nombre d'animaux. Les écrevisses, par exemple, en consomment. Elle est consommée aussi, on a pu observer des petits coléoptères indigènes. Moi, c'était dans le sud des Landes, qui des petits coléoptères de quelques millimètres dont les larves consomment les feuilles, attaquent les feuilles. Mais les larves en question ne s'attaquaient qu'aux plantes qui n'étaient pas en meilleur état, c'est-à-dire qui étaient à l'ombre, par exemple. Dès lors qu'on se retrouvait avec des plantes en plein soleil, il n'y avait plus aucun coléoptère. Parce que ces plantes, comme beaucoup d'espèces de végétales, elles ont des molécules de défense qui leur donnent un mauvais goût, etc. Et donc, il y a des recherches menées tout le temps, dans le monde, en Amérique, en Australie, etc., pour trouver des consommateurs spécifiques, des animaux qui ne mangeraient que ces espèces.
Et à l'ombre ou au soleil?
Et à l'ombre et au soleil, évidemment, oui.
Là, on fait un petit tour en bateau. Petit tour en bateau dans le
Marais-Poitevin. Ça faisait partie des points de départ qui me paraissaient importants. Et qu'il fallait créer des conditions qui permettaient de rendre ça supportable. Parce que quand la première fois que j'ai proposé de l'arrachage manuel, c'était donc en 1989 dans les Landes, j'ai eu droit à des engueulades de la part des élus,
départementaux, de la part des services techniques. Quoi, vous demandez d'aller travailler dans l'eau, en Waders, etc., alors qu'on a des herbicides, on a des machines. Et moi de répondre, mais oui, mais les herbicides et les machines, elles ne font pas le choix de trier les plantes qui gênent, les plantes qui peuvent poser des problèmes, elles enlèvent tout. Les herbicides, ils bousillent tout. Et quand, en plus, les herbicides, ils avaient un certain désavantage, c'est que comme ils bousillaient tout, qu'est-ce qui poussait le plus vite ? Après les traitements, c'était souvent l'espèce exotique qui avait, elle, des capacités d'absence de concurrence par ailleurs, etc. Donc,
Ça n'a pas été facile de faire accepter du coup qu'il fallait travailler à la main, c'est ça ?
Non, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça a mis du temps. Et par contre, ce que j'ai fait moi à l'époque, c'est qu'on a fait de la démonstration que c'était faisable en faisant de l'arrachage manuel dans des sites, la réserve naturelle de l'étang noir dans le sud des Landes, etc. En faisant des photos, en expliquant ça aux gens, etc. Et ça a pris du temps, mais ça s'est installé progressivement. Et le bilan, c'est que finalement, il y a une partie des gestionnaires qui se sont résignés à le faire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ça le plus efficace à terme. Parce que vous mettez une machine, elle va vous en laisser une partie. Donc, après la machine, il faut repasser manuellement. Pourquoi pas ? Et ça, c'est ce qui a été fait ici. C'est ce qui a été fait quand il y avait des grosses quantités à retirer. La machine, elle est là pour retirer les grosses masses. Et puis, le passage manuel de finition, c'est pour retirer les petits morceaux. Et en fait, à l'échelle du Marais Poitevin, les 1400 km de rive, on ne va pas mettre une machine sur 1400 km. Elle n'a pas d'utilité, parce que les repousses d'une année sur l'autre, ça fait quoi ? Une centaine de tonnes de matière fraîche sur 1400 km, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne vaut pas le coup de mettre une machine. Et c'est beaucoup plus efficace de travailler à la main, parce que ça veut dire que quand l'équipe qui est formée quand même tombe sur d'autres plantes que les jussies, ils ne vont pas se mettre à les arracher. Parce qu'une machine, enfin, les robots du futur, je lis de la science-fiction, j'ai pas de souci avec ça, on peut inventer, mais pour l'instant, on n'est pas capable, quoi. Et les herbicides, ils flinguent tout. Ils sont d'une efficacité, c'est pas discutable. Donc, le travail manuel, c'était quelque chose qui était très surprenant dans les années 90, et qui a progressivement s'est installé parce que ça fonctionne, pas partout, pas dans toutes les conditions, mais ça peut fonctionner. Et ça donne des résultats qui, du point de vue à la fois de la biodiversité, puisque ça n'a pas d'impact sur les autres plantes, et puis aussi on ne cause pas beaucoup de dommages en se baladant en bas, en se baladant, c'est un bien grand mot, là, en utilisant des bateaux légers, etc., parce qu'il n'y a pas d'impact physique sur le système, quoi. Donc, ça a plein d'avantages, avec, bien sûr, de la main-d'œuvre. Et c'est vrai que cette histoire de la vision de notre société sur la main-d'œuvre, elle a changé en 30 ou 40 ans, ce que je comprends. Mais dans certains cas, on ne fait pas beaucoup mieux que la capacité humaine à utiliser ses mains. Je suis désolé, mais voilà, quoi.
Et tout ça encadré, effectivement, avec une logistique, de la mécanisation, un plan particulier, il faut que ça soit bien organisé.
Et d'où l'arche ici, moi, je trouve ça... Quand j'ai découvert que vous aviez lancé ça, j'ai trouvé ça génial. C'est la reconnaissance de la difficulté du travail, de la fatigue du travail. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Vraiment. En matière de gestion, c'est l'exemple en question. Et ici, c'est vraiment le meilleur. J'en ai parlé chaque fois que j'ai pu pour parler de gestion durable. Alors, c'est pas applicable partout. Hein. Le milieu est très particulier. Hein. C'est des chenaux, etc. On ne peut pas agir de la même façon sur un lac, sur un autre cours d'eau. Mais le fait d'avoir réfléchi, d'avoir construit des protocoles, d'avoir continué de réfléchir sans arrêt, sans se positionner définitivement sur le cadre d'action, ça permet d'avancer et de créer quelque chose qui tourne, qui fonctionne. Bon.
Il faut d'avoir du personnel quand même qui soit bien armé, parce que c'est un métier très physique.
Ah ben bien sûr. Voilà. Mais c'est aussi en cela que l'arche et toute l'organisation du travail me paraît importante. Et c'est une reconnaissance de la pénibilité des choses, quoi. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie du cœur de cet exemple, quoi. Alors j'en parle avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai fait ma part, mais j'ai fait ma part à distance, quoi. Et celui qui a fait le boulot...
Oui, mais c'est ça, 30 ans plus tard, de voir où on en est. Alors, et qu'en plus,
c'est extrêmement important, oui. Mais il faut qu'on fasse un effort supplémentaire pour le faire reconnaître ailleurs, hein, on en a déjà parlé. C'est de l'eau recouverte, quoi. C'est pas mal, hein?
Donc là, jusqu'au bout, c'en est.
Ouais.
D'accord.
Ah, mais tu, la capacité de production de biomasse est assez incroyable.
Si on faisait rien dans le marais, toutes les...
Bah oui, ça serait comme ça.
D'accord.
Et même les plus larges, hein, y a pas de problème. Ah, après, c'est juste une histoire de corrélation entre les coûts de courant, des flux, etc. et puis la présence. La présence et nos capacités à mettre des nutriments inutiles dans l'eau, hein, phosphore et azote, et que donc elles peuvent se développer même en conditions où on considère qu'il y a quasiment pas grand-chose à manger. Ça, c'est des brouilles. Par contre, quand on rajoute de l'azote et du phosphore, il y a plus de biomasse produite, mais sinon la plante elle peut s'installer et puis elle va grandir avec une rapidité moindre, c'est tout. Quoi.
Là, on n'est jamais intervenu. Jamais. Donc ça permet de montrer aussi aux gens sur Internet ce que ça fait. Ça rappelle effectivement ce que les gens ne voient pas visuellement aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Parce que c'est des petits herbiers, c'est des cultures, etc. Ce qu'il faut faire, c'est comme les belles maisons, hein, personne ne les voit, parce que quand on passe par la voie d'eau, effectivement, on voit tout ça. Mais voilà, on passe sur la Seine, réseau principal, la DPF. Et après, il y a des vrais fossés privés qu'on ne fait pas. Et ça, c'est un fossé privé qu'on ne fait pas.
Et dans les plantes de Jussy adultes, il y a aussi quelquefois, d'abord il y a des molécules qui sont pas agréables pour les bovidés, des saponines, enfin peu importe. Et puis il y a aussi des cristaux d'oxalate de calcium qui se forment dans les tissus de la plante et qui, elles, ces cristaux sont gênants pour les ruminants parce que ça leur reste dans l'estomac, enfin dans les panses, etc. Donc ça veut dire que c'est pas une consommation agréable. Pendant la croissance, la plante. Elle consomme ce qu'il y a d'éléments nutritifs dans le sédiment, etc., dans l'eau. Ensuite, à l'automne, une partie va mourir, une partie de la flotte va rester, il y a des zones, etc. Et puis, l'année suivante, au printemps suivant, la plante, elle repart de cet ensemble-là, y compris de la partie pourrie qui est restée sur place, qui est déjà en partie dégradée, etc. Donc, c'est un phénomène d'auto-accumulation dans un site fermé ou peu renouvelé, qui ne se produit pas dans un cours d'eau, par exemple. Et ici, dans la mesure où on dégage les écoulements en enlevant les plantes, il y a suffisamment de courant quand même pour retirer une partie des boutures qui peuvent se produire quand même. Ça date de 50 ans, à peu près, 75.
D'accord.
En fait, je travaillais dans une équipe, d'un organisme qui était lié au milieu de l'année, quasiment pas de courant. Donc ça veut dire que ça aussi, l'absence de courant, ça lui facilite la vie à la plante. Elle va se développer sans contrainte, faire des ramifications, etc. Et puis ensuite, il y a de l'ombrage, mais pas suffisamment. Pour les systèmes, les chenaux un peu larges, l'ombrage ne couvre pas tout. Donc, c'est un milieu qui est potentiellement favorable à ce genre d'espèce. Elle n'a pas disparu. Je parle de régulation. Oui. On arrive à la rendre pas significative dans l'environnement. C'est une réussite de ce point de vue-là. Parce que ça veut dire que, d'abord, quand on intervient, on n'élimine pas les autres plantes. Que ferait un herbicide? Il tuerait toutes les plantes. Une machine, elle enlèverait tout. Là, c'est des humains qui sont formés, qui savent que ça, c'est une Jussy, et à côté, ça n'est pas une, donc j'arrache un Jussy, donc je la laisse. Et ça, ça fait partie aussi d'une forme de protection de la biodiversité, qu'on le veut ou non. Même si au départ, ce n'est pas ça qui était. Il y a 30 ans, ce n'était pas ça qui était voulu. Hein. La biodiversité, il y a 30 ans, on ne la percevait pas comme un objet à défendre. Hein. C'était de la protection de la nature en général, sans réflexion ou date.
Les plantes de Jussy récoltées sont évacuées en zone non inondable pour prévenir la colonisation accidentelle de nouveaux sites. Ces végétaux sont utilisés en compost depuis un centre de compostage. Vous souhaitez en savoir plus sur la Jussy? Rendez-vous sur le www.sèvres-niortaise.fr. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. On vous embarque, bien sûr, dans le Marais Poitevin. Cet épisode est à réécouter à partir de la semaine prochaine sur le site de pigouilleradio.fr en replay. À bientôt.
On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.